Bonjour à tous, ici ou pour ceux qui nous suivent à distance. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous fortifie, renouvelle, par peut-être des vacances, entre autres, ou en tout cas par sa présence, même s'il n'y a pas de vacances, des fois. Quelle assurance avez-vous ? Quelle assurance avez-vous ? Évidemment, si on pose cette question en dehors du contexte de l'Église, certains répondront peut-être en disant qu'ils ont une assurance voiture, une assurance habitation, une assurance santé, une assurance accident de la vie, une assurance vie peut-être, ou une assurance décès. J'ai l'impression qu'il en existe des tas de sortes. J'ai aussi l'impression qu'il y en a de plus en plus, ou en tout cas qu'on essaie de nous en faire acheter de plus en plus. Au cas où, on ne sait jamais. Évidemment, ce n'est pas ce genre de réponse qui correspond à ma question. Pas plus si vous me donnez le nom de votre assureur. Quelle assurance avez-vous ? Évidemment aussi, avec le chant que j'ai demandé à Fred d'inclure dans la première partie du culte et qu'on vient de chanter, je vous ai déjà mis sur la piste du genre d'assurance dont nous pouvons nous prévaloir. C'est quoi le titre déjà ? J'ai l'assurance de mon salut. Je l'ai tous vu le chanter. Ah non, j'en sais rien, j'étais derrière vous, donc je n'ai pas vu ceux qui faisaient juste semblant ou qui ne chantaient pas. Peut-être que vous avez la tête aux vacances et aux considérations un peu plus légères et que vous ne vous préoccupez pas de ce genre de questions. Et à vrai dire, vous faites bien de ne pas vous en préoccuper d'ailleurs. Si vous avez l'assurance, alors vous n'avez pas à vous en préoccuper. Vous ne devriez pas. Préoccupation et assurance sont antinomiques. Inquiétude, doute sont l'opposé de cette assurance. C'est en tout cas ce que semble dire l'apôtre Jean, si je le comprends bien, dans un de ses écrits, et que je vous invite à lire maintenant dans une des lettres de Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Jean 4, 13. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui, donc que nous demeurons en Dieu, comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu. Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. J'essaye si ça marche, hein. La suivante, du coup. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tellement de mots au contenu si vaste dans ce qu'écrit Jean, nous ne pourrons n'en aborder que quelques-uns et seulement quelques aspects de quelques-uns. Peut-être que pour vous c'est très clair, mais moi Jean, je trouve qu'il est souvent dur à comprendre, notamment parce qu'il écrit, enfin ce qu'il écrit, il l'écrit souvent, non pas de manière linéaire, comme nous le faisons de nos jours en Occident, dans une pensée qui part d'un point A et qui va à un point B, Mais lui, il est plutôt dans un style circulaire, où il passe et repasse plusieurs fois sur les mêmes idées, les mêmes notions, les mêmes concepts, mais en y montrant ou développant à chaque passage une facette un peu différente. De mon humble avis, ce n'est pas toujours évident. Demeurer, et je ne vous insulte pas hein, en disant ce terme, il s'agit du verbe « demeurer », synonyme de « rester » ou « résider ». Amour et résidence et assurance, pardon. Trois des principaux termes de ce passage, trois termes intimement liés les uns aux autres que je nous invite à considérer un peu ce matin. Tout d'abord, en tout cas dans l'ordre du petit passage que nous venons de lire, une bien belle affirmation. Une affirmation qui, j'espère, est nôtre aussi ce matin, et pas que ce matin d'ailleurs, mais bien tous les jours, nous demeurons en Dieu. Nous demeurons en Dieu. C'est le verset 13 qui le dit. Alors, dans un excès d'humilité, je n'espère pas de scepticisme, nous nous disons peut-être, « Ouais, bof, moi, chrétien bien fragile, chrétien encore trop pécheur que je suis, chrétien bien trop vacillant, avec des hauts et des bas dans ma foi. » Ce n'est pas toujours vraiment vrai. Vous êtes trop modeste. Nous demeurons en Dieu. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une affirmation. Et l'affirmation d'une réalité indépendante, indépendante de nos exploits, et je tiens à le souligner fortement, indépendante de nos accomplissements de chrétiens, de nos hauts ou de nos bas, de nos échecs aussi. Car, Jean le dit bien, nous savons, et nous le savons grâce à un fait particulier, peut-être incroyable, certainement extraordinaire, mais un fait assurément. Car telle est la décision de Dieu pour les chrétiens, tous sans exception, du moins pire d'entre eux, au pire d'entre eux, si je peux me permettre de dire cela. À ceci, nous savons, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Il nous a donné de son esprit. Ça ne dépend pas de nous. C'est une grâce, un don divin, et pas proportionnel à nos exploits ou nos échecs. En conséquence, je demeure en Dieu. Vous demeurez en Dieu. Et la réciproque, dit également Jean, est totalement et absolument vrai également. Dieu demeure en moi. Dieu demeure en vous. L'apôtre Paul n'affirmait pas autre chose, et Jésus lui-même non plus d'ailleurs. Le Saint-Esprit lui-même l'atteste à notre esprit. Le Saint-Esprit nous en donne la certitude. À ceci, nous savons que nous demeurons en Dieu. Comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. N'est-elle pas merveilleuse cette affirmation ? Allô, il y a quelqu'un ? N'est-elle pas abondamment réjouissante cette réalité ? J'espère que oui. Même si c'est un peu tout tremblant que nous la considérons et que nous louons et rendons grâce à Dieu pour ce privilège. Si nous regardons à nous-mêmes, nous ne voyons peut-être que le péché que nous avons commis ce matin. Nous ne voyons peut-être que le manquement ou l'insuffisance personnelle que nous avons connu hier, ou la chute et le doute d'avant-hier, ou par anticipation ceux de demain ou d'après-demain. Bien heureusement, de formidables réalités spirituelles sont indépendantes de nous, sont du seul fait de Dieu. Et donc par là même sont intangibles, inaltérables, inébranlables. On a chanté tout à l'heure l'amour infaillible. Si je demeure en Christ, ce n'est pas que je suis devenu un super chrétien. Ce n'est pas que je suis pasteur ou quoi que ce soit de ce style. Si je demeure en Christ, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a scellé par son esprit en moi. Reconnaissez-vous que Jésus est le Fils de Dieu ? Alors Dieu demeure en vous et vous en lui. Le verset 15 le redit encore, l'affirme, le confirme. Et Jean n'a pas peur des redites. Hein. Dans ces versets, on a l'impression qu'il tourne en boucle des fois. La seule condition ? Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Expression à comprendre comme l'expression de sa foi en Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur personnel. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est pas seulement génériquement reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, les démons le reconnaissent aussi. Mais c'est bel et bien le reconnaître avec tout ce que cela implique. L'incarnation, la croix, la résurrection, mon péché, mon pardon, et l'appropriation de tout cela par la foi à titre personnel, au titre du pécheur repentant que nous sommes, chacun et chacune. Pécheur alors pardonné, réconcilié, régénéré, et alors demeure de Dieu. Demeure de Dieu. Dieu lui-même est notre garantie. Ça ne dépend pas de nous, de nos petits bras musclés, ou pas de notre perfection ou imperfection, de notre fidélité ou infidélité. Réalité pleinement accomplie par l'œuvre de Jésus à la croix. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Verset 16. Jean, il ne fait pas une faute de grammaire, là, dans ce verset ? Il n'aurait pas dû écrire « et nous y avons cru ». Ce sont peut-être les traducteurs de la Nouvelle Bible Seconde, dont j'utilise la version, qui sont trompés. Et Jean a-t-il voulu dire qu'il avait cru Dieu ou cru l'amour que Dieu a pour lui ? Des fois, ce n'est pas évident de savoir ce qu'il veut dire exactement. Si cet amour n'est que parole et acte, en tout cas, je trouve que ça sonne un peu bizarre. Comme phrase, à moins que ce dont parle Jean ici est au-delà des paroles et des actes d'amour que Dieu manifeste. La traduction œcuménique de la Bible parle de l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Il y a de fait, je crois, dans ses propos, la personnification de l'amour divin. Jean a-t-il simplement cru à des paroles, cru à des actes, à des manifestations pratico-pratiques d'amour ? Non, il a cru Jésus, il a cru en Jésus. On est ici sur le registre de l'incarnation même de l'amour divin. D'ailleurs, Dieu est amour. Jésus est Dieu. Jésus est amour. Dieu manifesté au milieu de nous, l'amour manifesté au milieu de nous, c'est Jésus. C'est une personne. Ainsi, celui qui demeure dans l'amour, comme le dit Jean, c'est celui qui demeure en Jésus. Celui qui a mis sa foi en lui. Et alors, bien sûr, il demeure en Dieu. Et comme on l'a déjà vu, Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit demeure en lui. Écriture circulaire de l'apôtre Jean, Dieu demeure en lui. Moi aussi, je vais être un peu circulaire. Petite question, qui a ici le Saint-Esprit ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, un peu plus que j'avais noté. J'avais été pessimiste, je veux dire, ouais, il n'y en a que 3 qui vont oser lever la main, même si je ne mets pas en doute la réalité qu'il y a derrière. Qui n'en a reçu que 50% du Saint-Esprit ? Allez, 60. 70%. 25 seulement ? Personne. Tout chrétien a la totalité du Saint-Esprit en lui, ou elle, 100%. Ni plus, ce qui ne serait pas possible hein, de toute façon, mais surtout ni moins, pas moins que 100%, pas moins que Dieu, pas moins que Dieu. Dieu demeure en lui, ou en elle, et c'est en cela que l'amour est accompli parmi nous. Continue donc Jean au verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, dit la version second 21. Jésus ne dit pas que tous nos actes et toutes nos paroles sont des preuves parfaites d'amour. Loin s'en faut, des fois. Mais encore une fois, que Dieu est amour. Dieu est amour parfait. Et qu'il demeure en nous dans cette autre nuance qu'il mentionne. Et c'est ainsi que l'amour est accompli en nous. Accompli, parfait, complet. Parce que Dieu, Dieu parfait, Dieu amour, est en nous, et pas à moitié. L'amour est accompli en nous, parce que Dieu n'est pas là à moitié. J'avoue que ça donne un peu beaucoup le vertige de considérer cela. Et je peux que nous encourager à méditer cette vérité, aujourd'hui, demain, chaque jour. Oui, à cause de ma petitesse et de sa grandeur, comment un Dieu si grand peut rentrer dans un être humain aussi petit que moi. À Dieu, tout est possible. Ça donne le vertige, normal. Mais j'espère qu'au-delà du vertige, ça donne aussi de l'assurance, de la paix, de la joie, de l'enthousiasme, de la reconnaissance. Oui ? Non ? Ça dépend. En tout cas, à bien y réfléchir, les conséquences de Dieu en nous sont énormes, énormes. Les conséquences de l'amour parfait accompli en nous sont énormes. J'en relève trois parmi ce que l'apôtre Jean mentionne ensuite. Trois conséquences bien concrètes, enfin je trouve, j'espère. Et la première conséquence que Jean mentionne, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, l'assurance. L'assurance au jour du jugement, dit-il au verset 17. À comprendre comme l'assurance de notre salut, bien sûr. Car n'ayons aucune crainte, aucun doute, au jour du jugement, il n'y aura pas de châtiment pour nous. Quand, comme chaque être humain, nous passerons devant le juste juge, Dieu. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes déjà assurés d'être sauvés. On peut trouver que c'est peut-être une échéance lointaine, voire très lointaine, et que ça ne nous concerne pas vraiment pour notre quotidien. Pour avoir été un peu trop souvent confronté à la mort ces derniers temps, au questionnement des gens, je peux vous dire, et vous le savez sans aucun doute, que l'échéance n'est pas aussi lointaine qu'on peut parfois le croire. Et je dirais même que chacun, que chaque être humain devrait sans tarder y réfléchir sérieusement, afin d'être assuré, pleinement assuré d'être sauvé. Aucune question n'a de plus grande importance et de plus grand impact. Dieu lui-même est notre attestation. Dieu lui-même est notre assurance. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Dans sa parole que nous lisons ce matin. Un proverbe disait déjà plusieurs siècles plus tôt, « L'Éternel sera ton assurance ». L'Éternel sera ton assurance. En préparant, je me suis posé un peu la question de savoir si une assurance, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain. Je me pose des drôles de questions des fois. C'est vrai qu'en général, une assurance, c'est quelque chose que l'on contracte aujourd'hui pour se prémunir des conséquences d'un risque futur. Demain peut-être, ou peut-être jamais. Au cas où, comme je disais tout à l'heure. Et notez bien qu'on ne se prémunit pas contre le risque lui-même. Ça, on ne le contrôle pas, mais on essaye, par cette assurance, d'en réduire les possibles conséquences. En tout cas, de récupérer quelque chose après que les conséquences aient été importantes. La mort n'est même pas un risque, c'est une certitude. L'éternité dans la perdition, quand bien même certains n'y croient pas, n'est pas un risque, C'est une réalité à venir. Comment nous en prémunissons-nous? Quelle assurance contractons-nous? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Par la présence du Saint-Esprit qui demeure en moi, pour être précis. Nous avons en substance chanté tout à l'heure ce que Jean a écrit. En prenant cette assurance pour demain, toute conséquence négative, et pour le coup plus que réduite, il n'y a de fait plus de conséquences négatives que du positif, le salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et cerise sur le gâteau, je suis en paix aujourd'hui et je peux dormir tranquille, vivre tranquille. L'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. J'ai l'assurance de mon salut, non pas sur la base de moi-même, encore une fois, mais de l'œuvre de Christ et de la présence de Dieu en moi. Plus de crainte aucune à ce sujet, tranquille dès maintenant pour le jour du jugement. Tranquille dès maintenant pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi je dis que c'est vraiment une assurance qui vaut le coup. À vous ? Bien évidemment, ne culpabilisez pas. Si dans le cas contraire, vous ne faites pas semblant, si c'est quelque chose qui vous travaille encore. Tant de fois on fait semblant, par crainte du regard des autres, par honte, en disant « Ah, mais je suis chrétien et je suis censé être assuré là-dessus. » N'hésitez pas à l'exprimer, au contraire. J'aimerais tant que nous soyons tous en paix à ce sujet, et on peut en parler, on peut en discuter, les uns avec les autres, on peut prier pour cela. Remettre cette difficulté au Seigneur pour lui demander son aide en la matière et sa pleine paix. La deuxième conséquence de l'amour parfait en nous, étroitement liée à la première, toujours cette pensée un peu circulaire de Jean, c'est ce que dit le verset 17. « Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Un peu énigmatique encore cette expression de Jean, À comprendre certainement comme voulant dire « tel est Jésus, celui qui demeure en nous, celui en qui nous demeurons, tel est Jésus, tel nous sommes dans ce monde. » Jésus est tellement de choses que quel est-il en particulier que je suis aussi ? En particulier sur cette considération d'amour et de salut. Il y a des choses que je ne suis pas et que Jésus est. D'exemple, je ne suis pas le sauveur du monde, lui oui. En quoi suis-je donc tel que lui ? Et je vais citer ici le théologien John Stott dans son commentaire des lettres de Jean qui écrit à ce sujet. « Pour le pécheur, ce jour de jugement sera un jour de honte et de terreur, mais non pas pour le peuple de Dieu racheté. Notre confiance est sur le fait que tel il est, Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu prend plaisir. Nous sommes aussi enfants de Dieu et les objets de sa faveur. Si Jésus a appelé et appelle Dieu Père, nous le pouvons aussi. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé, nous pouvons partager sa confiance en Dieu. Fin de la citation. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il prend plaisir. Tel il est, tel nous sommes aussi. Nous sommes aussi les enfants bien-aimés de Dieu, en qui il prend plaisir. Lui par nature et par mérite, nous par adoption et par grâce. Mais c'est notre nouvelle identité. Et Jean l'avait déjà rappelé un peu avant dans sa lettre, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Nous le sommes. Là encore, il n'exprime pas le moindre doute, Jean, à ce sujet. En tout cas, moi, je le suis. en conséquence de l'amour parfait de Dieu. Je le ressouligne encore. De Dieu qui est amour en nous, par sa grâce, son extraordinaire et merveilleuse grâce en Jésus-Christ, mon Sauveur. Les bien-aimés enfants de Dieu. C'est fou ça, non ? Je ne dois pas encore pleinement réaliser la portée de tout ce que cela veut dire, de tout ce que cela veut dire. Mais encore une belle et même extraordinaire réalité, qui bien qu'elle peut aussi donner un peu le vertige, est à vivre dès aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pouvoir appeler le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, Père, comme le faisait Jésus, comme le vivait Jésus, à ma mesure peut-être, mais l'offre de Dieu est là. La possibilité relationnelle, la possibilité de communion est là, à saisir, à vivre. Merci Seigneur, merci Seigneur. On pourrait peut-être dire que Jean, il a quand même un avantage sur nous, hein. C'est que lui, il était contemporain de Jésus, il était son disciple direct, il l'a connu tout son ministère terrestre, et même plus, il était son ami. Le disciple que Jésus aimait, répétera-t-il plusieurs fois dans son évangile pour parler de lui-même, Jean. C'est vrai. Mais nos privilèges sont les mêmes. Nos privilèges sont les mêmes. Le disciple que Jésus aimait. J'avoue que je me suis parfois demandé si cela voulait dire que Jésus aimait plus Jean que les autres disciples. Plus que Pierre ? Non, peut-être pas plus que Pierre, mais plus que les autres en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jésus avait-il un ou des favoris, des chouchous ? Je crois qu'on pouvait assurément dire qu'il avait des personnes avec lesquelles Jésus avait des liens privilégiés, une relation d'intimité, de communion particulière. Il y a évidemment des gens qui procurent à Dieu plus de joie que d'autres par leur obéissance et leur consécration, par exemple. Leur relation et leur intimité, leur dépendance particulière qu'ils ont de Dieu. Il y a aussi des gens qui ont des ministères particuliers, des dons particuliers. Pourtant, je suis sûr qu'il est totalement faux de dire que Jésus aimait plus Jean ou plus Pierre ou plus quiconque d'ailleurs. Dieu ne fait pas de considération de personne, disent de très nombreux versets. Il y en a plein de Nouveau Testament. Et le plus ancien verset qui le souligne est même dans le Deutéronome. Pas un verset tout frais, celui-là. Pas de favoritisme, pas de partialité en Dieu ou de la part de Dieu. Un amour égal pour tous. Et je suis certain qu'en écrivant à son propos qu'il était le disciple que Jésus aimait, Jean ne se percevait pas non plus comme étant plus aimé que les autres. Il savait par contre, sans aucun doute, qu'il était parfaitement aimé de Jésus, qu'il était parfaitement aimé de Dieu. Un amour parfait et accompli, égal pour tous. Ni comparaison, ni compétition, ni concurrence. Le savons-nous ? Le croyons-nous ? Pour nous aussi, pour nous-mêmes, je suis parfaitement aimé de Dieu. Je suis parfaitement aimé de Jésus. Et c'est donc pour cela que je peux dire aussi, sans vantardise, sans orgueil, sans extravagance, mais sans honte et sans crainte aussi, en particulier sans crainte d'exagérer, que je suis le disciple que Jésus aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Sans prétention d'exclusivité non plus, hein, car nous sommes toutes et tous, en tant que chrétiens, les disciples que Jésus aime, d'un amour parfait et accompli. Emmanuel, tu es la disciple que Jésus aime. Éric, tu es le disciple que Jésus aime. Marie, tu es la disciple que Jésus aime. Laurence, tu es la disciple que Jésus aime. Fred, tu es le disciple que Jésus aime. Et on peut pas faire nananana, moi oui, et pas toi. Si, tous. Alors je ne peux pas tous vous mentionner, hein, mais vous l'êtes tous si vous avez remis votre vie entre ses mains. Je suis le disciple que Jésus aime. Vrai ou pas ? Convaincu ou pas ? Quelques mots dubitatifs. C'est pourtant ce que Jean écrit. Et je ne crois pas que ce soit du tout une formule réservée à lui-même ou au tout premier disciple. Pensée circulaire, je reviens un peu avec un autre angle au verset 16. Nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous. À nouveau, le point de référence, ce n'est pas tant nous, être humain fragile et facilement versatile, mais le point de référence, c'est Dieu. La perfection n'est pas dans notre connaissance de l'amour que Dieu a pour nous. Cette connaissance est encore balbutiante, même après quelques décennies de vie chrétienne. Cette perfection est en Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est perfection. L'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous est perfection. Et pour cause, Jean insiste, et moi aussi, Dieu est amour. Dieu est amour. Quelle belle et merveilleuse conséquence que d'être son enfant bien-aimé. Et la troisième conséquence de l'amour parfait en nous, et je terminerai par là, c'est peut-être celle qui frotte un peu le plus. Aïe, aïe, aïe. La plus pratico-pratique, visible, ou au contraire tristement pas visible. Jean la mentionne comme une preuve de l'amour parfait en nous, ou au contraire de son absence, quand ce n'est effectivement pas le cas. Cette conséquence, vous l'avez compris, c'est l'amour fraternel, l'amour de nos frères et sœurs. Dernier verset de notre passage. Dernier verset au pluriel, verset 19 à 21. Et Jean est catégorique. Si on est chrétien, on ne peut pas ne pas aimer un autre chrétien. C'est donc, selon lui, tellement contradictoire que c'en est impossible. Vous aimez Dieu ? Vous le dites en tout cas. Donc Dieu demeure en vous. Prouvez-le par votre amour fraternel. Si vous ne le faites pas, si vous ne le pouvez pas, c'est que Dieu ne demeure pas en vous. C'est que vous n'êtes pas chrétien, vous n'aimez pas Dieu. Vous mentez. Waouh, sévère, le Jean. Très sévère. Il mâche pas ses mots dans cette logique implacable. Après des propos qui nous tiraient plutôt vers le haut, qui nous exaltaient, ceci nous plombe plutôt un petit peu. Mais Jean est un pragmatique, il est l'homme d'une foi concrète. La religiosité, la spiritualité juste individuelle, il ne cautionne pas du tout. Comme Jacques, ce n'est pas son frère, mais le demi-frère de Jésus qui a écrit la lettre de Jacques, là aussi, met en avant la foi qui ne peut être que concrète, visible, et premièrement visible dans l'Église. Non. Moi, j'aime que ceux qui ont la même couleur de peau que moi. Je n'aime que ceux qui ont le même rang social que moi, que ceux qui ont le même goût que moi. Que ceux qui ont la même vision et compréhension des choses que moi, que ceux qui votent comme moi, que ceux qui sont bien sûr d'accord avec moi. Je n'aime que ceux que je choisis, et je ne choisis que ceux qui me ressemblent. Aïe, ça serait difficile, l'Église ainsi, n'est-ce pas ? C'est difficile, l'Église, je peux vous le dire. Le propre de l'Église, au sens large, universel, comme au sens réduit, local, c'est d'être composé de gens que, justement, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi, mais que Dieu seul a choisi. Et heureusement que lui, il n'a pas choisi que ses amis, car on ne serait pas nombreux, je ne serais même pas là. Il n'y aurait personne, nous étions tous ses ennemis quand il nous a choisis. Dieu seul choisit celles et ceux qui constituent son Église. Et notre point commun, c'est la résidence de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Des fois, c'est peut-être notre seul point commun, le fait que nous soyons chrétiens. Que fait-on alors ? Que fait-on alors ? Ah, l'Église, la pire invention de Dieu. Celle qui est vraiment le plus grand défi, pour moi en tout cas. Mais pourquoi donc Dieu a-t-il donc voulu l'Église ? C'est le premier lieu d'exercice de la vie chrétienne, à la fois école et laboratoire grandeur nature. Moi, malgré mon égoïsme, malgré mon égocentrisme, ma timidité, ma réserve, ma maladresse relationnelle et tous mes autres défauts, je m'émerveille de ce que Dieu arrive, un peu, je débute à aimer tout frère ou toute sœur parce que c'est l'amour parfait en moi, Dieu en moi qui le rend possible. Quelle prouesse extraordinaire de Dieu encore. Pas en vous ? Non, vous, c'est facile. Cette capacité, certes également encore balbutiante, vient de Dieu en moi. Et je loue Dieu pour cela. Je le remercie pour cela. Et surtout, je prie pour son aide et sa grâce pour cela. Et j'essaye de me souvenir que chacun et chacune d'entre vous est le disciple ou la disciple que Jésus aime. Ça m'aide à gommer vos défauts. En tout cas, c'est votre problème avec lui, avant tout. Vous pouvez penser la même chose de moi. Je prie pour son aide et sa grâce, pour cela, pour son pardon aussi, et le vôtre. Aimer mon frère ou ma sœur, ça peut demander de l'effort, mais je pense que ça demande surtout et avant tout de la soumission, soumission de ma volonté à celle de Dieu, de la compréhension de ce statut de chacun comme les bien-aimés de Dieu. Tout simplement, avec plein de guillemets, ce n'est pas si simple. Oui, une plus grande compréhension de son amour pour moi, pour vous, aidera aussi. Une plus grande conscience du fait qu'il est amour, lui, Dieu, du fait que je suis, que nous sommes son bien-aimé. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dit encore Jean. Ô Dieu qui demeure en moi, aide-moi à aimer comme toi tu aimes, par ta grâce en Jésus-Christ. Tout un programme, hein ? Attachons-nous à ce programme pour faire la joie de notre Père. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es amour et amour parfait. Et tu n'avais pas besoin de nous dans les pattes pour être parfait en amour, mais dans ta grâce, tu as souhaité, voulu nous associer à toi. Quelle grâce, quel privilège, et pas juste de loin. Tu viens, tu es, demeures en nous. Pardon pour toutes les fois où je te laisse la place que dans un placard. Seigneur, aide-moi à te laisser toute la place. Aide-nous à te laisser toute la place. Pour ainsi nous réjouir de cet amour parfait, pour être plein d'assurance pour aujourd'hui, demain et toute l'éternité, pour pouvoir avoir cet amour débordant pour nos frères et sœurs, et même au-delà des limites de l'Église aussi, pour notre prochain. Seigneur, tu connais tous nos manquements, nos insuffisances, etc. Mais nous ne voulons pas regarder à nous, nous voulons regarder à toi. Et dire que nous avons envie de grandir à ton image. Ô Seigneur, viens à notre secours chaque jour. Ô Seigneur, que ta volonté soit nôtre chaque jour. Merci pour toutes ces promesses, pour toutes ces affirmations, pour toutes ces réalités. Merci pour ton aide dans tout ce que nous n'avons pas encore compris, pas encore saisi, pas encore réussi à mettre en pratique. Aide-nous à avoir une vie à ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.